بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني في الله، nous avons lu ce soir le 16e juz. Et donc nous avons complété Surat Al-Kahf et nous avons lu l'intégralité de la Surat Taha. La Surat Taha est majoritairement composée de l'histoire de Moussa alayhi salam. Et l'histoire de Moussa alayhi salam est une des histoires des prophètes les plus citées de le Coran. Et très souvent, lorsqu'Allah Azza wa Jal cite l'histoire de Moussa alayhi salam, c'est pour encourager le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on appelle en arabe at-tasliya, pour l'encourager par rapport à des situations complexes qu'il est en train de vivre dans la période mécoise. Le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il prêche à Makkatul Mukarrama, il rencontre énormément de difficultés de la part des mécois, des Quraysh. Et donc Allah Azza wa Jal raconte l'histoire de Moussa alayhi salam pour que le prophète alayhi salatu wa salam réalise que son frère Moïse, Moussa alayhi salam, a connu énormément de difficultés également avec Pharaon, avec les proches de Pharaon, mais également avec ses propres compagnons, c'est-à-dire les Banu Israël. Alors il y a tellement, subhanallah, il y a tellement de leçons, il y a tellement de richesses de la sourate Taha, comme toutes les sourates du Coran. Je ne vous cache pas que la sourate Taha ainsi que la sourate Al-Qasas, subhanallah, personnellement, ce sont des sourates qui occupent une place, une grande place dans notre cœur. Et donc, pour la sourate Taha, il faut bien choisir un passage. On a choisi les versets 70 à 76. Il y a deux dénouements de la sourate Taha. Le grand dénouement, le dénouement final, c'est lorsque Moussa alayhi salam arrive au bord de la mer et qu'Allah Azza wa Jal ordonne à Moussa alayhi salam de frapper la mer avec son bâton et que la mer va s'ouvrir. Et, alhamdulillah, bi'idhnillahi Azza wa Jal, Moussa alayhi salam, accompagné des Banu Israël, peut franchir la mer et l'armée de Pharaon contemple ce miracle et Pharaon va s'approprier ce miracle d'Allah en disant, voyez comment la mer s'ouvre pour accueillir l'empereur Pharaon. Donc c'était vraiment une personne qui était pourrie de la tête aux pieds. Il avait le cœur vraiment, c'était même plus de l'hypocrisie, c'était exactement comme Abu Jahl, c'est exactement comme Abu Lahab, des personnes qui avaient compris Al-Haqq. On avait parlé longuement de on pourrait dire, on a fait une psychanalyse de Abu Jahl et d'Abu Lahab, on a vu que ce ne sont pas des personnes qui refusaient la prophétie. Ils savaient pertinemment que ça c'est haq, mais il y avait d'autres raisons. L'orgueil, la fierté, le pouvoir sur le peuple mécois qui faisait qu'il ne voulait pas accepter. Pareil pour Pharaon. Pharaon, alayhi la'anatullah, il sait pertinemment que s'il accepte le message de Moussa alayhi salam, il paie son trône. Et Pharaon, non seulement il était un roi, mais il était considéré par beaucoup comme un dieu. Et il disait « Ana, astaghfirullah », c'est une des rares personnes dans l'histoire de l'humanité à avoir proclamé « Ana rabbukumul a'la », »« Je suis votre Seigneur le plus haut ». Donc il savait, il avait compris dès le départ que la mission de Moussa alayhi salam était vraie et que les miracles que Moussa alayhi salam accomplissait régulièrement, cela venait d'Allah Azza wa Jal. Mais la fierté, l'orgueil, al-mulk, l'attachement pour son trône, le pouvoir, faisait qu'il ne voulait pas céder. Et il préférait mourir dans le shirk que d'accepter la vérité et donc perdre les avantages qu'il avait. Et donc, ça c'est un des dénouements, un des plus grands dénouements de l'histoire de Moussa alayhi salam de la sourate Taha. Et lorsque Pharaon emprunte le même chemin, et là Allah Azza wa Jalla ordonne à Moussa alayhi salam de frapper une seconde fois la mer de son bâton, et la mer va se refermer, et l'intégralité de l'armée de Pharaon va périr, et c'est là l'aide, la nusra tam. L'aide complète d'Allah Azza wa Jal, comme aucun être humain n'aurait pu imaginer ou n'aurait pu accomplir. Parce que l'armée de Pharaon était composée de centaines de milliers de combattants. Il avait mobilisé l'armée, on pourrait dire régulière, mais également, c'est moi qui rajoute ces termes, les réservistes. Il avait convoqué le maximum de personnes pour intégrer l'armée, pour aller à la poursuite de Moussa alayhi salam et les Banu Israël. Et il était inconcevable, surtout à cette époque, parce qu'à cette époque, quand on faisait une guerre, c'était avec des armes blanches. D'accord ? C'était une épée, c'était une lance, c'était des flèches. On ne pouvait pas exterminer 500, 600 000 personnes en quelques instants. Donc, humainement, ou sur un plan stratégique, il était impossible d'en finir avec l'intégralité de l'armée de Pharaon. Aucun homme ne pouvait le faire. Il n'y avait que le Khaliq, Azza wa Jal, qui pouvait le faire, anéantir Pharaon, son armée, ses descendants et tous ceux qui portent son sang, qu'il ne reste plus une seule personne. En quelques secondes, et c'est là la Nusra Tam. Ça, c'est le dénouement final de l'histoire de Moussa alayhi salam avec Pharaon. Et après ça, il y aura d'autres péripéties. Après que Moussa alayhi salam ait obtenu l'aide d'Allah Azza wa Jal, il va rencontrer d'autres problèmes, non pas des ennemis, mais des problèmes qui viennent de l'intérieur. Et les savants disent parfois les problèmes qui surgissent de l'intérieur sont plus difficiles à gérer que les problèmes qui viennent de l'extérieur. Quand je dis que lui, c'est ton ennemi, bah, tu sais exactement, il faut faire attention et tu prends les précautions. Mais quand c'est ton ami, ou alors quand c'est de l'intérieur que les problèmes surgissent, là c'est plus difficile à gérer. Donc les Banu Israël vont connaître des moments d'égarement. Ils vont faire preuve d'ingratitude envers Allah Azza wa Jal pour tous les bienfaits qu'Allah leur a accordés. Ils vont oublier les uns après les autres les bienfaits qu'Allah leur a accordés, en commençant par la délivrance du joug ou de l'esclavage de Pharaon. Et les savants disent, c'est une leçon à retenir, que cette Ummah ne commette pas les erreurs des Banu Israël. Autant l'histoire de Moussa alayhi salam était un encouragement pour le prophète alayhi salatu wassalam, l'histoire des Banu Israël est une mise en garde pour cette Ummah pour ne pas commettre les mêmes erreurs que les Israélites, que les Banu Israël, parce qu'on a un point commun avec les Banu Israël. Les Banu Israël, c'était la Ummah qui avait eu le plus de ni'mah, le plus de bienfaits palpables. Quand Allah a envoyé une nourriture qui venait du ciel, c'est des choses que juste les Banu Israël avaient eues. Mais et le point commun avec notre Ummah, c'est que notre Ummah, la Ummah du Prophète sallam, est la Ummah la plus aimée par Allah, khair Ummah. C'est la meilleure des Ummah. Donc, cette Ummah se doit de prendre des précautions pour ne pas répéter les erreurs des Israélites, la communauté des Banu Israël. Alors, nous, ce qui nous intéressait, on est parti ailleurs, un autre dénouement qui n'est peut-être pas aussi spectaculaire que la mer qui s'ouvre pour Moussa alayhi salam, mais qui va déboucher sur un événement exceptionnel, un véritable contre-pied, même si le terme n'est pas adapté, un contre-pied au makr, au plan de Pharaon. Lorsque Pharaon a vu Moussa alayhi salam avec le miracle du bâton, Pharaon a eu peur. Il a angoissé Pharaon. Il a compris que cet individu, avec ce miracle, peut me faire perdre le royaume d'Égypte. Donc, il a voulu qualifier ce miracle qui venait d'Allah. Il savait que ça venait d'Allah. Il s'est dit que je vais combattre ce phénomène qui, selon lui, est paranormal. Je vais le combattre par le paranormal. Mais lui, il va utiliser le mauvais paranormal. Moussa alayhi salam, c'était l'aide d'Allah, le ghaib, l'aide qui vient d'Allah. Lui, il va utiliser, on va dire, une pratique. C'est pas un art, hein, mais une pratique qui était muntashir, qui était répandue. Et qui était vraiment la chose qui distinguait cette époque, c'était As-Sihr, la sorcellerie. Ibn Kathir, rahimahullah, on ne peut pas tout expliquer en quelques instants, mais lorsque ces personnes, ces sorciers, vont faire des reproches à Pharaon, ils vont dire à un moment donné, وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ. C'est-à-dire qu'Allah va nous pardonner même la sorcellerie que tu nous as imposée. Ibn Kathir dit que Pharaon avait ouvert une école de sorcellerie où les enfants y allaient et ils apprenaient cette science maléfique et ils devenaient des experts. Et donc lorsque Pharaon a vu le miracle de Moussa alayhi salam, et tout le monde connaît le miracle, le bâton que Moussa alayhi salam, un bâton, un simple bâton, il jetait, et ce bâton se transformait en serpent énorme. C'était un serpent, Nekathir décrit la grandeur et la largeur du cou de ce serpent, et c'est un serpent qui était d'une grande rapidité. Et Pharaon a convoqué les meilleurs sorciers du pays. Il a convoqué les meilleurs Sahara. Dans certaines sources, on parle de 70 sorciers. Ils sont venus, et l'objectif c'était de contrer ce miracle de Moussa alayhi salam. Et donc Pharaon a tout prévu. Pharaon, c'était un roi, un empereur, c'était quelqu'un de très intelligent. Pharaon est un stratège, c'est un politicien, c'était quelqu'un qui préparait, il avait des plans à millimétrer. Tout comme il avait prévu de tuer tous les petits garçons des Israélites pour pas que le miracle, le rêve se réalise, il avait prévu, mais là aussi il y a eu un contre-pied, un moment donné il était obligé de laisser un peu de lest, autrement il n'y aurait plus d'esclaves. Ils avaient besoin d'esclaves, et c'est à ce moment-là que le frère de Moussa alayhi salam est né. Mais l'année où il a décidé de reprendre, de tuer donc les petits garçons des Israélites, Moussa alayhi salam est né, mais il est passé au travers des filets de Pharaon par la protection d'Allah Azza wa Jal, et cet enfant est arrivé même jusqu'au palais de Pharaon. C'est vraiment la pire des situations que Pharaon pouvait imaginer. C'est la dernière des choses qu'il pouvait penser. Lui qui a ordonné le massacre de centaines, peut-être même des milliers de petits garçons de sexe masculin, ben il n'a pas réalisé que l'ennemi qu'il redoute tant est chez lui, dans son palais. Sa femme, qui était stérile, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, on lui rapporte un petit bébé d'une grande beauté. Moussa alayhi salam était très beau. Et quand les gens le voyaient, les gens étaient subjugués par sa beauté. Les gens aimaient lorsqu'ils voyaient ce bébé. Cette femme qui n'avait pas d'enfant, elle voit ce bébé d'une grande beauté, le prend. Il le garde avec elle de son palais. Pharaon, il n'est pas trop chaud, il n'est pas trop d'accord, mais son épouse veut, donc il ne peut pas, refuser. Et il ne réalise pas qu'il est en train de, subhanallah, de subvenir aux besoins, il est en train de nourrir, il est en train d'habiller, bref, il est en train d'éduquer celui qui va causer la chute de son empire. Et c'est là une leçon pour Pharaon de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc on revient à l'histoire des sorciers. Donc voilà, on est au dénouement, on ne va pas raconter l'histoire. Moussa alayhi salam se réunit, Moussa alayhi salam est très angoissé, il a très peur, parce qu'il y a les sorciers, mais Pharaon a réuni les ministres, les notables, tout le monde est là, c'est un jour de fête, Yawm Zina. C'est-à-dire que Pharaon veut vraiment humilier Moussa et Haroun. Et Pharaon yatawakkal ala nafsi. Il fait confiance en lui-même. Yatawakkal ala mali. Yatawakkal ala nas. Il fait confiance en lui-même. Il fait confiance en son argent. Il fait confiance à la mulki, sur son pouvoir, sur les sorciers, sur les gens, sur les ministres, sur son armée. Et il fait confiance sur toutes les créatures possibles, sauf il oublie la confiance sur le Créateur, sur le Khaliq. Moussa alayhi salam, il n'a aucun asbab avec lui. Il est avec son frère. Et Moussa alayhi salam, il a un petit problème d'élocution. Ce n'est pas un grand orateur. Et là aussi, s'il fallait raconter, ce serait très long. Pourquoi est-ce qu'il a du mal à parler? Ça aussi, c'est une hikmah d'Allah Azza wa Jal. Il demande juste à Allah Rabbul Izzah d'avoir Haroun avec lui. Et Allah Azza wa Jal lui accorde Haroun. Ils sont à deux. De l'autre côté, il y a je ne sais pas combien de centaines ou de milliers de personnes, des notables, l'armée, les sorciers. Moussa alayhi salam, il a confiance en Allah Azza wa Jal. Parce que c'est Allah qui lui a dit d'aller voir Pharaon, d'accepter et de faire le miracle devant lui. Il sait qu'il aura l'aide d'Allah Azza wa Jal. Donc, au moment du duel, si on pourrait dire, les sorciers commencent. Ils jettent leurs bâtons, leurs cordes qui deviennent comme des serpents et les gens sont impressionnés. La vallée Wadi est remplie de serpents qui courent de tous les sens. Ce n'était en fait qu'une illusion. Vous avez déjà vu l'illusion du phénix? Je ne sais pas si vous avez regardé les mêmes choses que moi quand vous étiez jeune. Bref, c'est autre chose. C'était une illusion. Ce n'était pas la vérité. Ça, c'était achar. Ça venait du mal. Moussa alayhi salam a eu un petit peu peur. Allah Azza wa Jal rassure son prophète. La takhaf innaka antal a'la. N'aie pas peur. C'est toi qui vas gagner. Et là, c'est un véritable combat entre tes cinq sens et ton iman billah. D'un côté, tu as ce que tes yeux voient. C'est pas rien quand même. 70 spécialistes de sorcellerie avec leurs bâtons, leurs cordes qui tournent de tous les sens et que les gens sont subjugués, admiratifs. Certains, peut-être, ils pensent déjà à la victoire. de Pharaon. Ils ont déjà levé la coupe, ils pensent que c'est bon, Pharaon a gagné. Il entend clameur des gens. Il sait que c'est compliqué. Mais de l'autre côté, Allah Azza wa Jalla dit « Innaka antal a'la », c'est toi qui vas gagner, c'est toi qui es au-dessus d'eux, n'aie pas peur. Et il n'a pas peur, il garde confiance en Allah Azza wa Jalla. Ce n'est pas une situation facile ça. C'est une situation que seul un prophète peut gérer. Seul un prophète peut gérer ce genre de situation. Il jette son bâton et le bâton se transforme en un serpent gigantesque qui va avaler tous ces petits serpents, ces petits bâtons, ces cordes. Et qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'on dit que la claque que Pharaon va recevoir, ça va contrer tout ce qu'il avait prévu. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدَ. Les magiciens se jetèrent prosternés, disant قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. Nous avons foi en le Seigneur de Haroun et de Moïse. Ça, c'est la dernière chose que Pharaon pouvait imaginer. Il avait prévu tous les cas de figure, plan A, B, C, mais ça, impossible. Il a fait venir ses sorciers. Et quand les sorciers étaient arrivés, ils avaient le cœur rempli de haine, rempli d'hypocrisie. Ils ont commencé à discuter le prix. Ils ont commencé à discuter qu'est-ce qu'on aura si on gagne. Et là, Pharaon les promet, vous aurez telle chose, vous aurez telle chose. La seule chose qui les intéresse, c'est quoi? Dunya. Ils avaient le cœur sale, rempli de nifaq, rempli de saleté au début. Mais lorsqu'ils voient le miracle d'Allah Azza wa Jal, il reconnaît sa vérité. Les Mufassirin disent qu'il y avait un truc, par contre, il n'y avait pas de leur cœur, c'était l'orgueil. Il n'y avait pas l'orgueil du Pharaon. Donc quand ils ont vu la vérité, ils ont compris que ça vient d'Allah. Et que quand ça vient de dessus d'eux, ça vient du Créateur, on ne peut qu'accepter. Et ils tombent prosternés. Et il dit, nous avons iman en Rabbi Haroun et Moussa. Nous avons foi en le Seigneur de Haroun et de Moïse. Et là, Pharaon, il ne sait plus quoi faire. Il panique. Il ne sait plus quoi faire. C'est la pire des choses. C'est une humiliation pour lui devant sa cour, devant toutes les personnes qu'il a réunies. Il les avait réunies pour humilier Moussa, alayhissalam, alors que l'humiliation se retourne maintenant contre lui. Et là, Pharaon, comme toute personne qui perd pied et qui sait qu'il ne peut pas argumenter, il va utiliser la force. Qala amantum lahu qabla an adhana lakum. Il garde encore cette position. Il a l'impression que c'est toujours lui qui gère. Mais non, c'est fini là. À partir de ce moment, c'est plus lui qui commande. Mais il ne réalise pas. Il veut pas intégrer ça. Alors Pharaon dit, avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise? C'est-à-dire, pour avoir la foi, il faut me demander l'autorisation. Il a dit que, en fait, innahu لكبيركم الذي علمكم السحر. C'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Et là, il va sombrer dans un délire. Pharaon délire. Il s'est trouvé des arguments, il ne sait plus quoi dire. Il dit que, ah d'accord, en fait, la Moussa, c'est lui votre professeur. N'importe quoi. Il connaît le parcours de Moussa alayhissalam. Moussa a grandi dans son palais. Moussa n'a jamais appris le sihr. Quand Pharaon avait ouvert des écoles de sorcellerie, Moussa, lui, était dans son palais, il n'a jamais appris la sorcellerie. Il connaît le parcours de Moussa, mais il ne sait plus quoi dire. Donc, il essaie de retourner la situation, il essaie de trouver une solution, il ne s'en sort pas. Et là, il utilise la violence. فَلَوْ قَطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَوْ صَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذْوَعِ النَّخْلِ. Je vous ferai sûrement couper mains et jambes opposées. C'est-à-dire, si je ne me trompe pas, nous fassent une dise, je vais couper main droite et jambe gauche, ou le contraire. Et vous ferez crucifier au tronc des palmiers. Il a dit que là vous serez. Et vous saurez avec certitude qui de nous est plus fort en châtiment et qui est le plus durable. Donc il menace les sorciers. Il pense qu'avec ces menaces, ils vont avoir peur. Ils tiennent à la vie plus que toute autre chose. Et donc, ils vont se rétracter. Ils vont dire, non, Pharaon, on s'est trompé, on croit en toi. Parce que les sorciers savent pertinemment que Pharaon peut mettre en exécution ces menaces. Et là, la réaction, la réponse des Sahir, des Sahara, elle est tout simplement magnifique. Ça, c'est quand le iman, la foi, rentre dans le cœur. Elle dit, « قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ. Je jure, nous jurons par وَالَّذِي فَطَرَنَا فَقْضِي. Ma antaqad, innama taqdi, hadihi al-hayat ad-dunya. Dit par celui qui nous a créés, il jure déjà par Allah. Maintenant, il jure par Allah, par celui qui nous a créés, dira-t-il, nous ne te préférerons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuve. Il a dit, on a eu des dalalat, on a eu les preuves. Jamais on donnera préférence à ce que toi tu dis par rapport à ce qui nous vient maintenant d'Allah Azza wa Jal. Décrète. Donc, ce que tu as à décréter, tes décrets ne touchent que cette présente vie. Juge, tranche, fais ce que tu veux. Tu veux nous tuer? Tue-nous. Mais sache que toi, tu as le pouvoir uniquement sur la vie de ce monde. Et comprenez ce qu'ils veulent dire, que nous avons confiance en celui qui contrôle le Akhira, Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Donc Allah t'a donné ce pouvoir, mais c'est un pouvoir limité dans ce monde. Fais ce qui te semble bon. Ça, c'est Quwwatul Iman. Ils vont mourir. Pharaon, c'est pas un rigolo. Il ne fait pas que menacer. Il va les exécuter. Et de la pire des façons, mutiler, torturer, crucifier. Mais Kathir dit, c'est la première personne qui a mis en application ce genre de supplice, ce genre de châtiment corporel. Ils savent qu'ils vont mourir, c'est une question de minutes. Mais là, c'est comme si qu'ils enfoncent le clou. Ils y vont, ils disent clairement, nous avons iman en Allah, toi tu fais ce que tu veux. D'accord? Ça c'est quwwatul iman qui est entré dans leur cœur. Et ils disent, ils continuent, et là franchement la Pharaon n'en peut plus. Inna amanna bi rabbina, nous croyons en notre Seigneur. Pharaon a toujours dit que c'est moi votre Seigneur. Et là il dit non, nous croyons en Allah, notre Seigneur. Et là ils disent qu'on sait qu'Allah va nous pardonner. Liyaghfira lana khatayana, afin qu'il nous pardonne nos fautes. Wa ma akrahtana alayhi min as-sihr, afin qu'il nous pardonne nos fautes, ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Wallahu khayrun wa abqa, et Allah est meilleur et éternel. Et là, il continue que quiconque vient en criminel à son Seigneur aura certes l'enfer où il ne meurt ni ne vit, et quiconque vient auprès de lui en croyant, après avoir fait de bonnes œuvres, voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs. Et puis la description du paradis. Donc, les adversaires décrivent ceux qui font le bon choix, décrivent la situation de ceux qui font le mauvais choix, et le Jahannam, l'enfer, attend ces gens, et ceux qui font le bon choix, même dans des situations, dans des contextes difficiles, l'ouverture, la finalité, c'est la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Alors, où est-ce qu'on va en venir à travers ce dénouement? C'est premièrement une leçon de yaqin, de tawakkul ala Allah, de confiance en Allah. Toutes les conditions étaient réunies contre Moïse, Moussa alayhi salam. Il n'avait que Allah, subhanallah, et j'ai honte de dire ça. Il avait Allah avec lui. Et avec l'aide d'Allah, ça a balayé tous les asbabs que Pharaon avait prévus et avait réunis, et il les avait réellement réunis sur le même plateau, l'argent, le pouvoir, la force physique, l'armée, la force paranormale avec les sorciers, tout a été balayé en quelques secondes, et retournement de situation, cette force des sorciers se retourne contre lui et apporte iman en Allah Azza wa Jal. L'autre leçon, et on va terminer dessus pour ne pas être trop long ce soir, l'autre leçon à retenir, c'est que Allah Azza wa Jal a accepté le taouba de ces sorciers. Vous voyez comment c'était des gens qui avaient une mauvaise intention au début. Ils avaient deux péchés. La sorcellerie, qui est un des péchés destructeurs, et ils voulaient lutter contre Nabiullah. Ils s'étaient dressés contre Allah et son prophète. Donc, on va dire qu'il n'y a pas pire être humain à cette époque que ces sorciers, juste après Pharaon, bien sûr. Et comme ils ont eu un retour de iman, ils ont eu une compréhension du haq, de la vérité, ils se sont soumis à Allah, même s'ils n'ont pas commencé à faire de bonnes actions, le fait que le cœur s'est orienté vers Allah, ils ont demandé un tawbah sincère, Allah Azza wa Jalla les a immédiatement acceptés. Ibn Kathir, rahimahullah, dit, c'est pas Ibn Kathir, il rapporte ce que Ibn Abbas, radiallahu anhu, a dit, une parole magnifique, « Kanat saharatu sab'ina rajula » Ils étaient à 70 « Asbahu sahara » Le matin, ils étaient sorciers, « Wa amsaw shuhada » Et le soir, ils étaient martyrs, ils sont morts, shahid, parce qu'ils ont été crucifiés, ils ont été torturés pour être restés dans le haq, pour avoir désobéi à Pharaon. Et Al-Awza'i, rahimahullah, ça c'est des grands, ça, Ibn al-Mubarak, rapport de Awza'i, dit « Lamma kharra s-saharatu sujjada » Rufi'at lahumul jannah hatta nazaru ilayha. Dit que quand ils se sont prosternés, Allah Rabbul Izzah les a fait voir leur place dans le Jannah. Quand ils se sont prosternés, Allah Azza wa Jal leur a permis de voir la place qui leur est réservée dans le Jannah et ils l'ont vu de leurs propres yeux. Ils ont eu la bonne nouvelle du paradis depuis ce monde, donc ils sont restés fermes dans le haq hada. Et également l'opinion de Ikrima et Al-Qasim ibn Abi Bazza, tout ça rapporté par Ibn Kathir, rahimallah, il dit que lorsqu'ils se sont prosternés, قال رأوا منازلهم تبنى لهم وهم في سجودهم. Alors qu'ils étaient en prosternation, ils ont vu leur demeure de le paradis en train de s'installer. De quelle façon Allah seul le sait. Mais ils ont vu le Jannah en train de prendre place et leur demeure en train de prendre position pour les accueillir après. Après leur mort, ils ont donc eu cette bonne nouvelle du Jannah de ce dunya. Et la troisième leçon à retenir, qui est en rapport direct avec la seconde leçon, les savants disent, voyez, la clémence d'Allah Azza wa Jal. Quel que soit le parcours d'une personne, quelles que soient les erreurs qu'un être humain a pu accomplir durant sa vie, même s'il a cumulé les pires des péchés, quand une personne décide de revenir vers Allah Azza wa Jal, que cette personne sache que Allah est clément, miséricordieux et pardonneur. Les savants disent, ce n'est pas pour rien si les deux qualités d'Allah Azza wa Jal que le musulman va lire le plus souvent de sa vie, ce seront Rahman, Rahim, clément, miséricordieux. Chaque fois que vous lisez Bismillah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Pour que le croyant réalise qu'Allah Azza wa Jal est miséricordieux, pardonneur. Allah accepte. Allah Rabbil Izzah est clément. Et que chaque personne qui a commis des erreurs n'oublie jamais qu'ils ont au-dessus d'eux un Seigneur qui est clément. C'est le même Rabb qui a accepté le Tawba, le retour vers lui de ses 70 ennemis, de ses 70 sorciers. Allah peut nous accepter sans le moindre doute. Et pour nous rassurer, pour qu'on ne culpabilise pas excessivement, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que « Kullu bni Adam, tout être humain est khatta'un, est pécheur, wa khayrul khatta'in at-tawabun » et que les meilleurs maintenant, parmi ces gens qui ont fait des péchés, ceux qui se distinguent, ce sont ceux qui demandent tawba à Allah Azza wa Jal. Déjà pour que l'homme reconnaisse, pour que l'homme soit rassuré que les erreurs, ça fait partie de la nature de l'homme. Par opposition aux anges, où leur nature a été décrite dans un verset, le verset qu'on a cité hier, « La ya'asuna Allah ma amarahum » Ça c'est leur nature. Ils ne savent, ils ne désobéissent pas, ils ne savent pas c'est quoi la désobéissance. Ils font qu'obéir à Allah Azza wa Jal, créature de lumière. Alors que l'homme dans sa nature, le prophète dit que la nature de l'homme est de commettre des erreurs. Mais quand on commet des erreurs, maintenant il y a deux catégories de personnes. Et la meilleure de ces personnes, ce sont ceux qui vont demander pardon à Allah Azza wa Jal. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique, hadith rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, que « Inna ar-rajula aznaba dhanban faqal » Lorsqu'un homme commet un péché, il dit « Oh Allah, Rabbi, inni aznabtu dhanba »« Oh Allah, j'ai commis un péché. Oh Allah, pardonne-moi. » Allah Azza wa Jal dit « Abdi amila dhanba fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba » Le hadith est un peu long. Allah Azza wa Jal répond, dit « Mon serviteur a commis un péché, mais il sait, fa'alima, il sait qu'il a au-dessus de lui un Seigneur qui pardonne les péchés. Qad ghafartu li 'abdi. Allah annonce qu'il a pardonné à sa créature. Qu'il a pardonné à sa créature pécheur qui a commis ses erreurs. Et Allah Rabbul Izzah accorde son pardon parce que cette personne a eu cette réaction. Le tout, c'est de développer cette réaction. Quand on a mal agi, c'est de ne jamais oublier que, un, on a des comptes, que, un, ça c'est mal. Deux, j'aurai des comptes à rendre pour ce péché. Et trois, la troisième réaction, c'est la réaction qui nous amène vers le Tawba. Au-dessus de moi, j'ai un Seigneur qui est clément, miséricordieux. Maintenant, on peut greffer un quatrième point, c'est de ne pas oublier non plus que si je ne demande pas pardon, Allah Azza wa Jal peut sévir. Allah Rabbul Izzah peut punir de façon très sévère également. Donc, autant rester sur le troisième point, Allah est pardonneux, miséricordieux, à moi donc de demander pardon à Allah Azza wa Jal. Il y a tellement de hadith sur la clémence d'Allah, Abu Hurayra, il y a un rapport également que ça m'a dit, « La waqta'atum » Si vous faisiez des péchés, une telle quantité de péchés que vos erreurs, la quantité de vos péchés, ils pouvaient atteindre les cieux. Et quand vous demandez pardon, Allah va vous pardonner. Si l'homme cumule des péchés, tellement de péchés, c'est une image, hein, que les péchés arrivent jusqu'aux frontières du ciel, et qu'ensuite on demande pardon avec sincérité, sachez aux musulmans qu'Allah Azza wa Jal est capable de pardonner. Le hadith rapporté par Ibn Majah, et le hadith de tout à l'heure a été rapporté par Imam Ahmed. Hada. On va s'arrêter là pour ce soir, Inch'Allah. Et autre, les derniers hadiths, parce qu'il y a des fois où les gens disent que oui, j'ai fait des péchés, j'ai demandé pardon, mais après j'ai recommencé, est-ce qu'on peut encore demander pardon? La question a été posée. Et souvent, c'est une question qui revient quand on parle du Tawba. Les gens disent que oui, je demande pardon, mais après je retombe parfois dans le péché. La question avait été posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit que Inna rajulan. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit Ya Rasulallah. Un homme commet des péchés, qu'est-ce qui se passe? Il dit Yuktab alay. Le péché est inscrit dans son livret de compte. Il dit au prophète d'Allah, Thumma istaghfir wa yatoub. Lui, mais s'il demande pardon à Allah Azza wa Jal, le prophète dit Yughfar lahu wa yutabu alay. Il dit Allah lui accorde donc son pardon s'il demande. Il dit au prophète d'Allah, Faya'oudou. Qu'est-ce qui se passe si il recommence par la suite le péché? Le prophète dit Yuktabu alay. Le péché est de nouveau écrit dans son livret de compte. Le prophète d'Allah, Thumma yastaghfiru minhu wa yatoub. Si ensuite il a des remords, il redemande pardon à Allah parce qu'il est retombé dans la même, dans le même péché. Qala yughfaru lahu wa yutabu alayh wa la yamallu Allahu hatta tamallu. Il dit que il sera de nouveau pardonné et le péché sera effacé de son livret de compte. Et sachez aux musulmans qu'Allah ne se lasse pas. Tant que vous ne vous lassez pas. C'est-à-dire que Allah Rabbul Izzah peut continuer à pardonner tant que vous reviendrez vers lui. Mais là, bien sûr, ce texte, hein, c'est Muqayyad Bishurut, c'est en fonction d'autres hadiths qui donnent des, qui stipulent des conditions. C'est que même si l'homme est retombé dans le même péché, mais c'est par erreur, c'est vraiment par faiblesse, mais qu'au moment où il a demandé pardon, il était persuadé, il avait la conviction d'arrêter définitivement le péché, mais après, par faiblesse, il est retombé. Et s'il est sincère de nouveau, il demande à Allah avec sincérité, avec l'intention ferme cette fois-ci d'arrêter complètement, Allah Azza wa Jal peut lui pardonner autant de fois qu'il va demander pardon. Terminer sur ces belles paroles. Et nous sommes dans le mois béni de Ramadan, c'est le mois par excellence où on se doit de demander pardon parce qu'il n'y a pas une période de l'année où autant de personnes sont délivrées du Jahannam. Et en commentaire, le Muhaddithin dit qui sont ces personnes qui sont délivrées du Jahannam? Est-ce que ce sont ceux qui ont fait le shirk? Non. Est-ce que ce sont ceux qui ont fait le kufr? Non, pour ces péchés, les gens ne sortent pas du Jahannam. Ce sont des Ahlul Tawhid, des gens qui ont la ilaha illallah dans leur cœur, mais qui à cause de péchés, de cumul de péchés pour lesquels ils n'ont pas demandé pardon, ils doivent entrer dans le Jahannam pour qu'il y ait l'expiation de leurs fautes, qu'Allah nous protège. Et donc, durant ce mois de Ramadan, même ces gens-là, ils obtiennent la délivrance de l'enfer de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc, nous nous devons de nous orienter vers Allah au maximum à chaque suhur, le matin et à chaque rupture du jeûne. On se doit de demander abondamment pardon à Allah Azza wa Jal. Différentes formules, vous connaissez les formules. Essayez de télécharger cette application ou alors ce doua qu'on appelle le Sayyid ou l'Istighfar et essayez de le lire pour le Tahajjud. Allahumma anta rabbi. Qui c'est qui le lit pour nous? La ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. Le doua est long, il fait à peu près 5 lignes. Essayez de l'avoir sur votre portable et quand vous faites la prière de la nuit et après vous faites des doua, lisez. Si vous les mémorisez, alhamdulillah, autrement vous lisez. C'est le Sayyid al-Istighfar, c'est le meilleur, la meilleure formule pour demander pardon à Allah Azza wa Jalla. Lisez-le en comprenant le sens et en ressentant, vous dites, oh Allah, je reconnais tous les bienfaits que tu m'as accordés. Ça veut dire que tu m'as accordé plein de bienfaits, mais malgré ça, j'ai fait preuve d'ingratitude. Quand Allah t'accorde des bienfaits, tu les utilises dans le bon sens, dans le bon chemin. Mais non, je les ai utilisés, j'ai fait des mauvaises choses. Oh Allah, je reconnais que j'ai fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de péchés, mais oh Allah, tu es mon Seigneur, tu pardonnes. Donc ça, c'est vraiment une formule où on se soumet à Allah Azza wa Jal, on essaie de le lire, de le mettre en pratique. Allahumma amin, subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, wa alhamdulillahi rabbil izzati amma yasifun.